Alors, je voulais vous parler de Titien, mais d'une période qui est moins connue de sa vie, c'est-à-dire les 25 dernières années de sa vie, et où il a complètement changé sa façon de peindre, et qui est très intéressant de connaître, parce que c'est une partie qui est moins connue, en fait. Et d'ailleurs, le titre, j'ai dit « Le dernier Titien, sensualité et spiritualité à la contre-réforme ». Parce que je vais un petit peu, disons, séparer mon propos en deux. La première partie, ce sera celle de la sensualité, et donc vous allez voir des tableaux que vous connaissez certainement, avec des jolies femmes nues, souvent, enfin presque, voilà. C'est-à-dire ces inventions mythologiques, comme il l'appelait, ces poésies. Je dois vous dire aussi que quelquefois, il y aura des mots en italien, mais je crois que vous connaissez tous l'italien, donc voilà. Même quelquefois, les noms propres, je les dirai en italien. Alors, l'avant-propos, c'est dans les dernières années de sa vie, justement, Titien nous a livré ses œuvres les plus sensuelles, donc ses poésies et ses inventions mythologiques que je viens d'évoquer, mais aussi sa dernière méditation religieuse, une prudente dissension. Alors, ce mot de dissension, vous l'entendrez un peu plus loin. La dissension dans le sens de révolte presque, c'est-à-dire non adhérer à quelque chose. C'est dans ce sens-là, la dissension dont je parle. Donc, c'est une prudente dissension contre les subtilités théologiques des papistes et des luthériens, nourries de pacifisme érasmien. Érasme, vous connaissez ce grand philosophe. C'est-à-dire une dernière méditation spirituelle et un regard désenchanté sur l'art et sa peinture. Donc ça, c'est un peu l'introduction que j'ai faite. Alors, on commence. Je vous ai mis un autoportrait de Titien dans les années 46. Vous en verrez un autre quand il sera un peu plus âgé. Tout à l'heure, je vous le passerai. Voilà. Et donc, on parle de cette sensualité. Je pense que vous voyez toujours les titres de la peinture où il se trouve en ce moment, donc ce n'est pas la peine que je vous redise. Alors, cette sensualité, c'est la touche tendre et caressante avec laquelle son pinceau effleurait les superficies des corps, en particulier celles des femmes. Parfois, il s'agissait aussi d'une impétueuse charge d'énergie ou d'une touche paresseuse et négligée qui ébauchait joliment les formes et souvent la couleur imitait la peau et la chair. C'était une technique révolutionnaire, caractérisée par des coups de pinceau bien visibles qui donnaient à ses représentations une qualité sensuelle jamais vue auparavant et qui aura une grande influence sur la peinture des siècles suivants. L'œuvre de sa maturité comprend les 25 dernières années de sa longue vie. Il mourut le 27 août 1576, pendant que la peste ravageait Venise, où succomba aussi son fils Orazio, qui aurait dû hériter l'atelier de son père. Sa date de naissance est estimée aujourd'hui entre les années 1488 et 1490, parce qu'on n'a pas son acte de naissance. On n'a jamais trouvé le document et donc on ne sait pas encore aujourd'hui s'il est né en 48 et en 88, en 90, 11, 12 en fait. On sait qu'il meurt en 76 et donc à l'âge, lui s'est vieillissé toujours parce que les grands de ce monde payaient très mal, surtout l'empereur. Alors, pour les apitoyer, dans ses lettres, il disait toujours « Oh, mais vous savez, j'ai plus de 90 ans, il faut voir, donc la moitié de ma vie, je vous ai servi, ce serait… » Enfin bref, ils invoquaient toujours et se vieillissaient exprès. Voilà. Alors, son style n'a pas été tout de suite caractérisé par des coups de pinceau visibles, qu'on appelle en italien la pennellata aperta, a macchia, c'est-à-dire à tache. Mais dès le début, il privilégia la couleur encore plus que ses prédécesseurs et ses contemporains. Ses maîtres, comme Giovanni Bellini e Giorgione, maîtrisaient les idées spatiales de la perspective et les concevaient en forme abstraite, c'est-à-dire des poésies immobiles. Titien, au contraire, étonnera par ses visions envahies d'atmosphère, imprégnées de couleurs, et par sa capacité presque alchimique de travailler la matière, se conformant constamment aux souhaits de ses commanditaires. Ainsi, il développa des formes et des styles nouveaux qui vont innover les règles de la peinture. Ce fut pendant son voyage, le voyage à Rome dans les années 1540 et son court essai de se mesurer avec les œuvres contemporaines réalisées ou influencées par Michel-Ange qu'il choisit un parcours complètement différent. À partir de cette période, son style s'assouplit, la touche se fait plus visible et sa peinture plus sensuelle. Une façon de prendre les distances avec la peinture sublime de Michel-Ange et ses élèves en prenant le dessus sur le dessin. Alors, la couleur devient matière qui remplit le dessin. Et dans le sens aristotélicien du terme, se révèle élément féminin en opposition au contour masculin du dessin qui établit la forme. Les corps et les objets commencent à perdre leur netteté et leur délimitation précise dans l'espace. On le verra surtout dans les suivantes. Sa réponse légendaire, faite à l'ambassadeur de l'empereur Charles Quint, Francisco de Varga, à propos de son style si audacieux, au lieu de la manière sublime de ses contemporains, fut que, je cite, « que lui, Titien, ne se sentait pas capable de recréer l'élégance et la beauté de la peinture d'un Michel-Ange, d'un Raphaël, d'un Corrège, et même si l'on fut capable, on l'aurait jugé par rapport à ses artistes, ou pire encore, un de leurs imitateurs. » Au contraire, son ambition le poussait à chercher une nouvelle voie pour acquérir sa réputation comme d'autres avaient gagné la célébrité à leur manière. En examinant les commentaires de l'époque, on s'aperçoit que son style ne fut pas compris, voire refusé. C'est dans le portrait de Pietro Aretino de 1545, vous savez tout ce qui était Pietro Aretino, lui, il s'est nommé le secrétaire du monde. C'était le fléau des princes, parce qu'avec ses milliers de lettres qu'il écrivait à tous les grands de la terre de l'époque, il pouvait faire et défaire la réputation de n'importe qui. Et pour Titien, il a été un grand ami et surtout son impresario. C'est grâce à lui que Titien a pu joindre des commanditaires ou commissionnaires, je ne sais jamais comment on dit des deux, pour donc faire tout son travail. Alors, c'est dans le portrait de Pietro Aretino que nous allons entrevoir la première courbe du chemin qui conduit Titien vers ce que seront les tableaux de sa vieillesse. Certains détails de l'habit sont presque peints à la hâte. Et Aretino lui-même disait que ce tableau est plutôt esquissé qu'achevé. Et puis une autre fois, plus méchamment, il a dit « Si je lui aurais donné peut-être quelques écus de plus, il aurait fait les velours de mon habit un peu plus soyeux et lumineux. » D'ailleurs, cette façon de faire, il l'avait déjà anticipé, par exemple, dans ce portrait posthume, parce que le doge était déjà décédé, le grand doge Andrea Gritti, dans les années 1545. Alors, Giorgio Vasari, lors de sa visite à Venise en 1566, dans l'atelier de Titien, il s'efforça, non pas en toscan averti, mais en fin connaisseur d'art, de comprendre cette façon révolutionnaire et trouva cette manière judicieuse, belle et magnifique, qui fait sembler vivantes les peintures faites avec un grand art et façon toute fatigue. Mais Vasari dira aussi plus tard qu'avec cette peinture, Titien s'était gâché la réputation qu'il avait gagnée avec le style précédent. En fait, les Florentins et les Toscans, enfin, Toscans, ça englobe tout, n'ont jamais aimé la peinture vénitienne. Ils ont toujours été en conflit avec Venise, ça on le sait. Même Michel-Ange reprochait aux Vénitiens de ne pas savoir dessiner. Parce que Venise, c'était surtout la couleur, évidemment. La lettre de Niccolò Stoppio, Niccolò Stoppio était l'oratore allemand. Oratore, ça veut dire ambassadeur à l'époque. Donc, dans cette lettre de 1568 à Johann Jakob Fugger, qui était le grand banquier de Genève, et d'ailleurs à Venise, on a il Fonda Codei Tedeschi, qui était la maison de commerce de la communauté allemande au début du XVIe siècle. Et les Fugger avaient le bureau là, d'ailleurs. Donc, dans cette lettre, l'oratore raconte aussi que Titien n'arrivait plus à voir ce qu'il peignait. Sa main tremblait au point qu'il n'arrivait plus à réaliser grand-chose, que ses œuvres n'avaient plus la même qualité qu'avant, et que pour cela, il laissait son activité à ses commis. C'est un refrain qu'on rencontre dans les échanges épistolaires de l'époque entre les commanditaires, surtout espagnols, mais contredit quand même par l'ambassadeur espagnol à Venise, Diego Guzmán de Silva, qui disait que les taches de couleur de Titien étaient plus géniales que chez les autres peintres, mais que tout le monde préférait l'ancienne manière qui correspondait plus à la sensibilité de l'époque et à la nature de la bonne peinture. C'est peut-être pour cela que Titien fera exécuter toujours plus de commissions par ses collaborateurs, dont la façon coïncidait davantage avec les goûts du public de l'époque. Et ses collaborateurs, parlons-en, donc la bottega, c'est-à-dire l'atelier de Titien, était très, très animé. Il y avait beaucoup de monde, parce que tous ces grands peintres prenaient les aides, les apprentis, les familles, comme on disait, c'est-à-dire les parents. Et donc là, il y avait par exemple un jeune peintre qui ordonnançait tout ça. Surtout, il tenait les jeunes tranquilles, parce que sinon c'est la pagaille. Alors, il s'appelle Girolamo Dente, et all'Accademia on a ancora une peinture de ce peintre, qu'on appelait aussi Girolamo Dente di Tiziano. Son nom c'était ça, en fait. Puis après, dans son atelier, il y avait Lambert Soustris, qui était un peintre hollandais. Il y avait aussi son neveu, Marco Vecellio, et en 1567 va arriver de Grèce ce jeune Domenico Theotokopoulos, qui va rester 3 années. Il avait demandé à Titien de pouvoir travailler avec lui dans son atelier, il restera 3 années, puis partira pour Rome, puis après il ira en Espagne, et vous savez qu'il deviendra le grand El Greco. Voilà. Il Giovane, qui était un autre élève de Titien, disait que Titien esquissait ses tableaux avec une masse de couleurs qui servait de lit, sur lequel, avec des coups de pinceau de différentes couleurs, il faisait apparaître la promesse d'une rare figure. Cette peinture qui se trouve à Vienne, la nymphe au berger, est une peinture qui a été beaucoup restaurée. Mais c'est une peinture extraordinaire parce que c'est là qu'on voit bien que le corps et les objets commencent à perdre leur netteté, vous voyez, et leur délimitation précise dans l'espace. C'est un peu comme du flou artistique, en fait. Le terme de style tardo, justement, de cette période, ne devrait pas se baser sur le processus physiologique et biologique, mais se situer dans le domaine mental, pour l'extraordinaire possibilité qu'il avait de saisir l'essentiel dans les expériences mûries et sélectionnées dans sa longue vie, et d'intégrer le résultat d'une vision philosophique d'une grande envergure. Donc ça c'était pour cette partie, disons, encore où il faisait ses poésies qui étaient demandées surtout par les grands, le duc de Ferrara par exemple, Alfonso, puis après il y aura aussi les autres, même Philippe II. Hein, même l'Espagne si prude, lui ont demandé ses poésies, ses Danaées, ses nymphes, ses Vénus, et donc que Titien a toujours fait. Mais pendant ce temps-là, il y a aussi la peinture religieuse, parce que qui faisait travailler les peintres à Venise en général? C'était les trois grands commissionnaires ou commanditaires, comme on dit, c'est-à-dire la République, son palais, les églises et les scuole grandi, c'est eux qui avaient l'argent. Puis après, il y avait les particuliers, puis après, il y avait tous les grands tout autour, le pape à Rome, le duc à Ferrara, celui de Mantoue, il y avait l'empereur Charles Quint, le fils après, etc. Donc maintenant, j'arrive à cette partie religieuse, de peinture religieuse, que j'appelais une prudente dissension. Là, certaines choses vont peut-être vous surprendre, mais je vais essayer de vous les faire saisir. Voilà. Alors, cette prudente dissension, en fait, c'est cette prudente révolte en soumission à ces normes de l'Église, je vais vous dire. Donc, cette œuvre de la maturité, surtout à partir de la biographie de son alter ego Pietro Aretino, on a cité tout à l'heure, ainsi que dans la production littéraire et épistolaire de ce dernier, Aretino, nous offre plusieurs éléments pour découvrir un cercle étendu de dissensions religieuses, prudentes et modérées, situées dans une position intermédiaire par rapport aux extrémismes opposés, fuyant dans l'hérésie ou en se soumettant à la nouvelle discipline conciliaire. Je vous rappelle que le Concile de Trente, voulu par le pape Farnèse Paul III, qui a duré un moment quand même, il a démarré en 1545, il se terminera en 1563, et de ce concile sortira cette nouvelle discipline que beaucoup d'intellectuels de l'époque n'ont pas vraiment acceptée. Mais on ne pouvait pas le crier ouvertement. Pourquoi? Parce qu'on était accusé d'hérétique et on pouvait être même brûlé. Donc, il fallait faire. Alors, je reviens à cette nouvelle discipline conciliaire. Non, à ce prudente dissension, pardon. Elle est fortement individualiste et inévitablement inquiète. Confrontée à des formes de contrôle toujours plus pressantes, vécue dans le domaine privé, et donc historiquement appelée nicodémisme, d'après le nom du pharisien Nicodème, qui était un chef de juifs et disciple du Christ, mais qui se manifesta seulement dans les derniers moments de la Passion, de la descente de la croix à la sépulture. Donc il ne s'est jamais mis en avant parce que là aussi il y avait danger parmi les juifs. La position du Titien par rapport à la religion correspondait à une déclaration de spiritualité absolue, qui n'était pas une exception, car tous les grands peintres vénitiens du XVIe siècle ont effleuré et traversé la dissension avec inquiétude. Ils choisirent une religion christocentrique d'une grande intensité sentimentale et ils firent des images remplies d'effets spéciaux selon leur exigence et celle de leurs clients. Aucun document écrit nous donne un témoignage de leur inclinaison. Non, pas inclinaison. Inclination, pardon. Excusez mes fautes de français. Mais ces documents extraordinaires qui sont leurs œuvres sont des indices indiscutables de leurs secrets, surtout dans certains détails qui échappent plus facilement au contrôle ou dans certaines ambiguïtés apparemment injustifiées, qui soulignent la contradiction, le doute, la prudence. Dans la grande toile de Vienne de Lecce Homo, signée et datée 1543, réalisée pour Giovanni d'Anna, riche marchand flamand établi à Venise, Titien représente Pietro Aretino dans la personne de Pilate. Voilà. La présence de l'Aretino nous signale qu'il est le metteur en scène du tableau, mais pas de l'organisation des images, de leur contenu, avec de nombreuses allusions aux événements politico-religieux européens de l'époque des années 1539-40. Sur le plan politique, nous voyons à droite deux chevaliers. Là. Le sultan. Oh pardon, là et là. Hein. Donc c'est le sultan Soliman le Magnifique et le capitaine impérial chrétien Alfonso d'Avalos, qui était l'époux de la poétesse Vittoria Colonna, qui montre son doigt au païen Soliman, laissant entendre que les guerres de Venise contre les Turcs étaient des guerres de religion. Sur le plan religieux, il y a Bernardino Chino de Sienne, frère capucin, célèbre pour ses prêches dans toute l'Italie et qui fut accusé de blasphème pour ses sympathies vers les idées de la Réforme et dû fuir en exil en 1542 en Allemagne. Dans le tableau, Occhino est identifié au moine avec le bâton qui interpelle le grand prêtre, donc le moine avec le bâton, voilà, le bâton. Le grand prêtre est là. Hein, qui interpelle le grand prêtre, responsable de la condamnation du Christ. C'est ce Caïfa, moi je l'ai dit en italien, mais vous avez compris de qui il s'agit. Ce Caïfa bouffi d'orgueil, gras et chauve selon la tradition iconographique, mais ici actualisé par les habits curiales contemporains. Alors, et voilà, Caïfa. Ces choix iconographiques sont tirés du texte « L'umanità di Cristo » de Pietro Aretino, après le succès de ces trois éditions de 1538 à 1540. Dans ce texte, Pilate est un personnage positif, un homme juste qui emploie tous les moyens pour sauver le Christ, mais qui est vaincu par le destin et l'insurmontable fureur des Juifs. Ce n'est pas non plus un incertain, un faible ou un lâche, mais un homme pacifique qui s'interdit l'usage violent et aveugle de son autorité en essayant de suivre une voie intermédiaire de conciliation. L'image de Pilate correspondait dans la réalité contemporaine à une véritable attitude nicodémique et à la position personnelle de Pietro Aretino, maintes fois déclarée dans ses lettres. Et puis, il y a la jeune fille à la robe blanche, la seule qui regarde l'observateur. C'est peut-être Lavinia, la fille de Titien, et l'enfant devant elle, c'est Adria, fille de Pietro Aretino, ou Paolo, fils du commissionnaire. Donc, voilà, Lavinia, Adria, ou Paolo. Or, toute cette mise en scène concerne seulement l'Aretino ou concerne aussi Titien? La réponse assez claire est dans la longue durée d'exécution du tableau. Car, malgré que l'époque appelait à une grande prudence, après l'échec des colloques de Ratisbonne, d'ailleurs en 1541, le moineau Quino est toujours là, même s'il n'est plus le célèbre prédicateur, mais l'apostat hérétique. Et Caïphe, le véritable responsable, porte encore avec affectation les habits modernes d'un grand prêtre curial, prudemment méconnaissable et anonyme. Vous savez qu'à ce moment-là, dans la curie romaine, il y avait ce cercle d'intellectuels qu'on appelait gli spirituali. Michel-Ange était un peu, pas le chef, mais enfin, il était là-dedans comme grand artiste. Mais il y avait donc son ami, Vittoria Colonna, la poétesse. Il y avait le cardinal anglais De Paul, il y avait le cardinal Morone, il y avait le protonotaire Papalla. Et toutes ces intellectuels, ces gens de curie aussi, optaient pour, disons, une plus grande... un plus grand rapprochement avec les luthériens pour ne pas arriver au conflit où on est arrivé d'ailleurs après. Et donc ces spirituali étaient en fait il y avait aussi à Venise ce groupe qui comprenait ces intellectuels. À Venise on avait le cardinal Contarini, il y avait Titien donc, mais aussi les autres grands peintres. Donc c'était tout un cercle de personnalités qui n'arrivaient pas à, passez-moi le mot, un peu vulgaire, avaler tout ce que le concile dictait pour redresser un petit peu cette église qui était penchée un peu dans l'autre sens, comme on dit. Alors, je reviens à mes tableaux. Avec le retable de l'Annonciation à l'église de San Salvador à Venise, c'est un problème de détail là. Le tableau, déjà prévu dans le testament de 1559 par son commanditaire Antonio della Vecchia, riche marchand vénitien originaire de Bergamo, fut terminé au début de 1566. Une longue élaboration avec des doutes et réflexions décelées lors de la restauration de la Pala en 1988. D'ailleurs, Titien était quelqu'un qui prenait toujours son temps. Il pensait et concevait lentement. Parfois, il commençait un tableau, puis après il retournait la toile contre le mur, il la reprenait 6 mois après, 1 an après. En fait, il lui fallait du temps. Sur le tableau, alors on va aller là. Sur le tableau au centre, sur la première marche, Titien avait écrit Titianus faciebat. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, moi je voulais, on a agrandi, en fait ça se trouve ici, hein, parce qu'après là il y a une autre, voilà. Souligne l'union avec l'imparfait, temps de l'action prolongée, non finie, un temps d'exécution très long, infini, soulignant en même temps que lui, âgé désormais de plus de 80 ans, il continue à peindre. À deux reprises, deux mains différentes ont superposé les mots « fecit, fecit », qui ne signifie rien, sinon à imaginer toutes sortes d'élucubrations modernes. Il y a une autre phrase sur la droite, sur la deuxième marche, mais on ne la voit pas très bien. Elle est là. Qui dit en latin « ignis ardens non comburens », qui signifie « feu qui brille sans brûler, sans consumer ». Puisque Titien ne mettait jamais de légende, l'écrit contemporain de l'œuvre a été ajouté et certainement voulu par un religieux assez cultivé, faisant allusion à l'épisode biblique tiré de l'Exode, celui de Moïse et le buisson ardent. Buisson qu'on n'aperçoit pas sur le tableau, ou alors on ne le reconnaît pas parmi les autres feux. Afin de souligner opportunément la conception virginale de Marie, selon lui évidente, c'est-à-dire celui qui avait mis l'écrit, mais que tous les éléments du tableau contredisent encore aujourd'hui pour celui qui ose décrypter les détails. L'ange Gabriel, que vous voyez là, ici beau garçon épanoui et passionné, voyez les joues bien roses, bien en chair, avec un pied parfait et sensuel, jamais vu ainsi auparavant. Il arrive, inattendu, sans le lys candide de la chasteté. Marie, troublée, gracieuse et épanouie, répond en avançant elle aussi un très joli pied. Et écarte son voile avec le geste traditionnel de la conceptio per aurem, comme prétexte pour montrer des lèvres séduisantes et des yeux intenses, dirigés sans nul doute sur le nœud posé à la taille de l'ange. Pendant que d'autres anges agitent triomphalement le ruban rouge virginal qui n'est plus autour de la taille de Marie. Je reviens en arrière. La carafe en cristal, que vous voyez là, à droite, au reflet étincelant, comme symbole de chasteté, devrait avoir de l'eau limpide, ou le lys de Gabriel. À sa place, il y a un rameau chargé d'inquiétantes fleurs rouges épanouies, semblables à des roses un peu passées. Là. Vous voyez ? Si bien qu'en ajoutant sous la carafe la phrase du feu qui ne consume pas, on a voulu faire allusion à un rosier ardent à défaut d'un buisson. Derrière Marie, il y a un lit, désormais visible seulement aux infrarouges, qui n'est pas le thalamus nuptial, virginal, mais un lit ordinaire où on a dormi en oubliant de le refaire le matin. Ici, Titien avait abandonné la tradition symbolique habituelle, avec le lys de la chasteté, la pomme et la feuille de figuier de Marie Nouvelle-Ève, la corbeille à ouvrage, la perdrix. Avec une vierge accueillante humblement, un ange d'une effrayante timidité, comme dans cette Annonciation de Naples, pour San Domenico Maggiore, qui est un dépôt au Musée National de Capodimonte. On revient en arrière. La réserve sur la virginité de Marie dans l'Annonciation de San Salvador avec cette incarnation concrète, matérielle, humaine, souhaitée par son commissionnaire ou commanditaire, révèle que Titien, Pietro Aretino, son éditeur Francesco Marcolini et le marchand Antonio Della Vecchia faisaient partie de ce cercle intellectuel, mais modéré, souhaitant une religion étrangère aux impositions dogmatiques, mais désormais obligés à une dissimulation nicodémique. Dans le cadre de l'éloge chrétien humaniste de la vie contemplative, la culture vénitienne de la fin du 400 et du début du 500, vous savez tout ce que c'est, hein, 15e et 16e siècle, exalte l'iconographie de Saint Jérôme dans le désert, avec la représentation de l'ermitage et de l'ermite, choix obligé d'un parcours moral et intellectuel, d'une vie solitaire, d'études et prières, loin du monde et des pressants contrôles moraux et religieux de l'époque. Titien a peint plusieurs fois ce sujet pour ses commanditaires, comme celui-ci par exemple, que vous voyez, qui est à l'Escorial, qui est très beau. Mais le plus personnel et le plus dramatique est le non fini du musée Thyssen de Madrid, peint entre 1570 et 75 environ, où il ne reste plus que la pierre pour se frapper, le livre, une croix improvisée sur un rameau dénudé plus grand et vivant que d'habitude, vous voyez là, et le sablier caché dans les frondaisons. Son visage émacié, au regard fixe, contredit la vigueur du corps et la tension des muscles. Et la nature est un tourbillon de formes agitées et décomposées, esquissées seulement avec quelques coups de pinceau. Autour de celui qui a tout abandonné, mais pas le Christ et la sagesse divine, et a déjà les traits reconnaissables du vieux Titien de l'autoportrait du Prado de 1562. Je vais essayer de vous retrouver. C'est-à-dire, voilà, celui-là, que Giorgio Vasari avait vu en 1566 dans l'atelier de Titien. Le style non fini du dernier Titien est aussi un langage intellectuel, une métaphore, afin de réveiller dans l'observateur la valeur affective de la représentation, en se concentrant sur sa perception psychologique. Dans la Pietà de 1576, destiné son succès à sa sépulture dans l'église Santa Maria dei Frari à Venise, que je pense tout le monde connaît, vous avez tous vu, il peint un vieil homme amaigri, couvert d'un morceau de tissu réalisé avec des touches rapides de blanc, de rose et de rouge, agenouillé devant le Christ, fixant son visage en lui prenant affectueusement le bras et la main. Nous connaissons déjà ces traits. C'est encore une fois le vieux Titien du Prado que je vous ai montré auparavant. Et dans d'autres autoportraits masqués. Par exemple, celui-ci, cette mise au tombeau qui est toujours au Prado, où on le voit là en tant que... Voilà. Ici, c'est encore le portrait du vieux Titien. Alors, quel est cette fois le masque de Titien qui met donc dans cette Pietà? Ce n'est pas Job, parce qu'il devrait avoir les plaies d'identification. D'ailleurs, Titien avait pensé cette peinture à bien avant l'épidémie de peste. Ce n'est pas non plus Joseph d'Arimathée, qu'on voit dans la mise au tombeau de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire celle-là. Celle-ci. Il était en Joseph d'Arimathée. Donc, ce n'est pas Joseph d'Arimathée, riche juif, toujours parfaitement habillé et richement habillé même. Ce n'est pas non plus Nicodème, parce qu'il ne pourrait pas se permettre tant d'intimité et devrait être habillé d'une tunique ou d'une capuche, comme avait fait Michel-Ange quand il s'est identifié à lui dans la Pietà florentine. Voilà, qui est à l'Opéra del Duomo à Florence et qui date des années 1550-53. Et puis Titien, désormais, était au-delà de la neutralité nicodémique. Le magnifique vieux, au contraire, s'identifie avec Jérôme, l'ascète pénitent, le seul qui puisse regarder le visage du Christ mort et lui prendre la main de cette façon, parce qu'il a déjà pris sur lui sa souffrance et sa solitude, et parce qu'il a déjà reçu le bénéfice de sa passion. Il n'y a aucun doute sur cette identification, puisque Titien a peint ce personnage exactement comme les dernières images indépendantes de Saint Jérôme ermite, en réunissant dans l'adhésion personnelle et physique de l'ascète à la figure du Christ les deux ultimes parcours de sa vie, de sa dernière méditation religieuse et de sa dernière peinture désenchantée. Sorte de testament artistique, si vous voulez. La Pietà arriva aux galeries de l'Accademia à Venise en 1814. Depuis l'église de Sant'Angelo, supprimée alors, où elle avait été placée en 1631. Après l'échec de la négociation avec les Frari, où elle avait été exposée en 1575, donc avant la mort de Titien, cette Pietà a été exposée, certainement pas terminée, mais Titien avait souhaité être enseveli à l'église dei Frari, dans l'hôtel, sous l'hôtel du crucifix, de la crucifixion en fait, si vous préférez. Mais ensuite, par un décret du nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape à Venise, elle fut rapportée dans l'atelier de Titien. Pourquoi ? Alors on s'est toujours demandé pourquoi. On suppose que c'est parce que cet hôtel, cette chapelle, avec cette croix, ce crucifix, avait une très grande dévotion et elle attirait beaucoup de monde. Or, si on mettait la pala de Titien, cette Pietà, les gens ne viendraient plus. Et alors, qui dit ne plus venir à l'église et donner sa petite pièce, c'était moins d'argent. C'était toujours un discours d'argent, vous savez, hein, à l'époque aussi. Alors, autre motif de discussion encore aujourd'hui, Titien meurt pendant l'épidémie de peste, 76. Or, la République interdisait formellement d'ensevelir les malades morts de peste dans une église. C'était un décret établi, même pour les grands. On sait que Titien a été enseveli après les Frari. Donc, il n'est pas mort de la peste. C'était un vieil homme affaibli désormais. Et certainement, il a été emporté par maladie de vieillesse, mais certainement pas la peste. Par contre, son fils Orazio, qui aidait la magistrature della santé aussi pour les allées venues al lazzaretto où on mettait les malades. Alors il y avait il lazzaretto vecchio où on mettait les condamnés, c'est-à-dire che dans les 24 heures i muri. E il lazaretto nuovo, che a été établi par la suite, parce que il fallait beaucoup plus de place, al lazaretto nuovo on mettait aussi ce qu'on appelait la contumacia, c'est-à-dire les gens supposés de maladie où on voit de guérison. Et les bateaux en quarantaine, les bateaux qui arrivaient des ports infestés par la maladie, on devait le signaler sur le livre de bord, bien entendu, et quand ils arrivaient à Venise, on les mettait en quarantaine à Lazaretto Nuovo, avec les marchandises surtout, qu'on arrosait pendant 50 jours de produits, de vinaigre, exposés au soleil pour qu'ils soient désaffectés. Donc, le corps de Titien est certainement à Venise, où il y a ce monument qui n'est pas d'époque, d'ailleurs c'est un cénotaphe qui a été fait par les élèves de Canova. Vous l'avez certainement vu à Ifrari. Voilà. Cette pietà, finalement, elle est enlevée dei Ferrari par ce décret du nonce apostolique et elle a été rapportée dans l'atelier de Titien. Et ensuite, c'est Palma qui la garda, Palma il Giovane, qui la garda, il la ramenait chez lui et il la garda jusqu'à sa mort en 1521. Et d'ailleurs, en 1581, c'est là que Montaigne l'a vue dans l'atelier de Palma il Giovane, justement. Palma d'ailleurs termina l'œuvre aussi et nous le fait savoir en mettant en bas cette inscription en latin, ici, que je vais vous traduire, qui dit « Ce que Titien laissa inachevé, Palma le mena à terme, avec révérence, et dédia cette œuvre à Dieu. » Ensuite, vous regardez bien ici, cette partie-là, il y a deux détails. Est-ce que vous voyez ce bras ? Là, sur le socle, il y a une sorte de bras avec une main. C'est un bras en pierre qui est appuyé au socle. Peut-être son bras, c'est-à-dire de Titien, avec sa main extraordinaire de peintre, ou alors la matière humaine qui se termine. Et ensuite, toujours en bas à droite, il y a encore ce détail que je vais vous mettre davantage. Le voici. Voilà. Alors, il y a surtout le blason de la famille Vecellio. Parce que Titien s'appelait Tiziano Vecellio, vous le savez tous. Ah, qui est là, le blason de la famiglia. Avec l'aigle impérial à deux têtes, de sa dignité de comte palatin et chevalier de l'éperon d'or reçu par l'empereur Charles Quint. Alors Charles Quint n'a jamais payé les tableaux qu'il a continué à commander jusqu'à la fin de sa vie, mais il lui donnait des titres honorifiques qui valaient rien d'ailleurs en monnaie. Il lui avait promis 3 chars de grains venant de Naples, il lui avait promis des pièces d'or venant de sa ce secrétariat de Milan. En fait, rien n'est jamais venu à Venise, jamais arrivé dans les poches de Titien. Mais bon, il était comte palatin et chevalier de l'éperon d'or. Voilà. Alors, il a mis sa dignité là. Et puis, il y a un petit tableau votif, vous voyez, là. Avec Titien et son fils Orazio agenouillé. Il y a là un peu d'orgueil familial avec donc le blason et peut-être aussi un ex voto. Alors dans l'ex voto, il y avait une autre figure ici qui a été grattée par Titien, puisqu'on a examiné et c'était fait à l'époque. Là, il y avait son autre fils, son fils Pomponio. Pomponio était le fils aîné, mais qui était toujours la grande douleur de Titien, parce que c'était un bon à rien, un bon vivant. Alors, il l'avait mis dans la carrière religieuse pour essayer de le maîtriser un peu, et aussi pour qu'il ait des bénéfices qu'il ait une vie agréable, sans manque d'argent et bénéfices, vous savez, des abbayes, etc. Et donc il en a bien profité, il a bien vécu. D'ailleurs, quand la peste va éclater, son fils Horatio reste auprès de son père, il va faire des allées-venues, il attrape aussi la maladie avec tout ça. Pomponio, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie dans un monastère. Il se souvient d'abord qu'il est religieux, parce qu'en ville, il vivait avec des prostituées, évidemment, c'était la belle vie. Et il fuit Venise dans un couvent religieux, comme ça, ni vu ni connu. Quand Titien décède, à Venise, c'était le désert. Vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être, les temps de peste. Et sa grande maison à Ibiri Grande est vide. Il n'y avait plus que ce vieux avec sa domestique, sa Catarina, aussi vieille que lui, qui traînait ses savates, qui n'entendait jamais les ordres du maître. Et il décède, donc. À partir de là, sa maison a été complètement pillée. On a volé, on a emporté, il y avait ce qu'on appelait i pissegamorti, ceux qui ramassaient les cadavres et qui entraient dans les maisons et raflaient tout ce qu'ils pouvaient, quoi, en fait. Le peu qui est resté, son fils Pomponio, après, il revient et ils vendent les tableaux. Ils vendent tous les tableaux de son père, ce qui fait qu'il ne reste pas grand-chose. Beaucoup ont été vendus à une famille barbaro de Padoue, d'autres, bon, la Pietà, heureusement, Palma l'avait récupéré, et elle l'avait restauré aussi. Alors, de Palma reste, enfin, je vais vous indiquer ce qu'il avait fait. Alors, Palma a jeté la partie du fronton, ces petites lumières ici et cet angelot un peu trop doré, vous voyez, un peu voilà. Palma a fait ça. Ensuite, il mettra aussi un glacis pour uniformiser les points de raccord de ses interventions. Vous savez que cette toile a été faite avec 6 morceaux de toile unis, sont l'une et l'autre. Donc voilà, ça c'est les interventions de Palma. La signification de l'œuvre, en plus de tout ce que je vous ai raconté, mais il y a une autre lecture, c'est-à-dire que vous avez ces deux personnages. Alors ça c'est Moïse qui est dans la généalogie du Christ et de la Vierge. Ça c'est la Sibylle et l'Espontique, c'est celle qui a annoncé la Passion. D'ailleurs, elle a la couronne d'épines sur la tête. Marie-Madeleine, qui crie. Vous voyez, elle a la bouche ouverte. Et elle crie sa douleur, mais en même temps, elle crie que cette mort sera la résurrection, en fait, pour nous, qui effacera nos péchés. La Vierge, évidemment. De Titien, Jérôme, on en a parlé, là. Et puis, il y a ça aussi. Cette espèce de... En fait, ici, Titien a voulu rappeler l'héritage de Bellini, de son maître, Dio Bellini, avec toutes ces mosaïques dorées qui rappellent aussi la chapelle de Saint-Marc. Ça, c'est une sorte de chapelle, hein, vous voyez. Mortuaire, si vous voulez, c'est un sépulcre, mais c'est quand même une chapelle. Et ça, c'est un pélican. Le pélican, c'est l'oiseau qui se blesse la poitrine, toujours, pour nourrir ce petit. Donc, le symbole de l'Eucharistie, en même temps. Hein, l'Eucharistie, là, vous voyez, il y a cette verticale qui rejoint tout ça. Voilà, ça c'est un peu l'autre lecture qu'on peut faire. Bon, puis après il y a les lions symboliques de force, mais qui rappellent encore une fois Venise, etc. Je pense que je vous ai dit un peu tout. En fait, je voulais vous lire aussi quelque chose. On a parlé de ces spirituels à Rome, de ce cercle d'intellectuels. Et ils se basaient sur un texte qui s'appelle Il bénéficio di Cristo. Le bénéfice, j'en ai parlé tout à l'heure, quand Titien disait qu'il avait pris sur lui, Titien Jérôme, il a pris sur lui la souffrance, et il avait déjà reçu justement le bénéfice de la passion. Donc, ce bénéfice de Christ, ce texte, a été écrit par un moine bénédictin qui s'appelait Benedetto Fontanini de Mantoue, publié anonyme à Venise en 1543. Parce que vous savez qu'à Venise, on n'a pas tellement respecté l'index, l'indice des livres interdits fait par Monseigneur della Casa. Monseigneur della Casa, qui n'a jamais obtenu le chapeau de cardinal parce que sa vie a été un petit peu trop mondaine, mais quand même, il avait fait ce décret de l'index. Alors, donc, il a été publié anonyme à Venise, parce que Venise a continué à publier, hein. Son imprimerie marchait assez fort, d'ailleurs. C'est une sorte de manuel, comment on peut dire, consolant, qui exalte un Dieu miséricordieux et dispensateur du salut, par le don du bénéfice du Christ, qui permet aux hommes de racheter leurs péchés. Du point de vue de la doctrine, il s'approchait de la théorie de la justification par la foi de Luther. C'est là que ces spirituels voulaient s'approcher justement et pas provoquer la rupture, le conflit. Il a été condamné et mis à l'index, comme je vous disais, par le Concile de Trente en 1546, mais publié quand même à Venise. C'était une troisième voie intermédiaire pour une solution différente du conflit avec le monde luthérien, fortement appuyé par le groupe des spirituali que j'ai évoqué, dans le climat chaotique des années 1540 dans la curie romaine, dont faisait partie, bon, je répète, Michel-Ange, Vittorio Colonna, le cardinal anglais Paul, le cardinal Giovanni Morone, le protonotaire apostolique Carnesecchi, Alvise Priuli e Giulia Gonzaga, entre autres. Voilà. Bien, moi je termine ici. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que quelqu'un veut...
Quelques questions après cette brillante prestation. C'est très approfondi. C'est toujours impressionnant de voir une analyse d'un tableau et avec autant d'entrants. Des remarques, des questions ?
Devant les... Non, mais justement, d'après ce que tu as dit, j'ose pas, vous voyez, hein, non, tu...
J'entends pas. Ah, c'est celui qui marche pas, peut-être.
L'idée, c'est que, en fait, il voulait montrer que la Vierge était une femme, que... non pas une Vierge.
J'ai pas compris. Que...
Voilà, la femme que nous voyons. Que tu as si bien décrit devant nous. C'est une femme.
La Vierge.
C'est pas une Vierge, voilà. Oui. Est-ce qu'il veut montrer réellement, mais on n'a pas de texte, c'est bien ce que tu as fait comprendre, que ce qu'il a voulu nous faire comprendre, est-ce qu'il a été jusqu'au bout de se dire, en fait, il n'y a pas d'Immaculée Conception. C'est ça.
C'est ce que j'ai.
C'est ce que c'est.
Alors, attendez, je la retrouve. La voilà.
Il aurait été jusque-là.
C'est ce que j'ai essayé de vous dire et c'est ce qu'on a trouvé dans les écrits, dans les différents tableaux de l'époque, parce qu'à Venise, les autres artistes aussi, hein, Tintoret, Veronese, Lotto, Lorenzo Lotto aussi, qui était si spirituel, mais il ne pouvait pas se déclarer ouvertement. Alors, il faut revenir en arrière. Alors, mettez-vous à leur place. Vous êtes éduqué dans la religion, parce que malgré tout, ils étaient très, très religieux, très croyants, très encore aujourd'hui à Venise. On vous enseigne d'une certaine manière. Et puis un beau jour, le Concile de Trente vous dit, non, non, mais non, il faut que vous croyiez à ça, même si vous ne pouvez pas toucher avec le doigt, il faut croire à ce dogme et pas discuter. Donc, pour des intellectuels, des personnes de culture de haute volée de l'époque, ces impositions, croire des choses qu'on n'avait jamais appris, ni tout d'un coup, non, il faut y croire. Rome dit, il faut y croire. Basta. Le pape Paul III Farnese, qui a été un sacré galopin à la cour de Rodrigo Sforza, cardinal, avant d'être pape Alexandre VI, il avait des maîtresses aussi, dans son âge plus poussé, lointain, disons, surtout quand il devient pape, il s'est beaucoup assagi, si on peut dire, et c'est lui qui va, pour sauver la mise, pour sauver les choses, il fallait faire quelque chose. Je vous rappelle aussi que c'est lui qui a créé l'Inquisition, c'est lui aussi qui, sur la suggestion de Saint Ignace de Loyola, créera la Compagnie de Jésus. Hein, ça vient à ce moment-là du pape Farnèse. Donc tout d'un coup, ces personnes de haute culture, ces intellectuels, ça, on leur dit, ah ben non, c'est plus du tout comme ça, maintenant c'est comme ça. Alors vous pensez bien, bon, maintenant je vous le dis de façon très, très linéaire, très simple, mais il faut quand même se mettre dans la tête de ces personnes-là et dire, ah, mais pourquoi? Pourquoi maintenant je dois croire à ça? Alors que le culte de Marie, je vous rappelle, intervient seulement au Moyen-Âge. Avant, on ne parlait pas du tout de la Vierge de Marie. On n'en a jamais parlé dans les premiers temps du christianisme.
C'est Bernard de Clairvaux qui a lancé la croisade.
Donc, voilà. Alors, on arrive au moment de rupture, au XVIe siècle, et ces gens-là, ils disent non, nous, on reste comme on a été éduqués, notre croyance, etc. On n'accepte pas, ou peu, ces choses que le Concile de Trente nous oblige à impose. Voilà.
D'autres remarques, questions? Bien. Tu n'as rien à ajouter, Graziella?
Je peux ajouter aussi que à Venise, on ne parle pas beaucoup de ça. Hein.
Ça, c'est choquant pour les gens de l'époque et même pour aujourd'hui encore.
Aujourd'hui encore, les critiques d'art survolent le sujet. Ça, c'est... Lors de l'exposition il y a 10 ans à Venise, à l'Accademia, sur justement la dernière période de Titien, il y a eu beaucoup d'articles de critiques, de spécialistes de Titien uniquement, hein, qui ont creusé vraiment la matière, la chose, comme on dit, et tout ça est ressorti. Puis après, c'est rentré à nouveau. Donc, on n'en parle que parmi les spécialistes, certainement pas n'importe qui. Voilà. Moi, quand je montre l'Annunciazione de San Salvador à Venise, comme ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est seulement à des amis ou à des personnes qui peuvent comprendre la chose. Parce que sinon, je risque de scandaliser les bonnes âmes.
C'est choquant pour les
gens. Ah oui, c'est choquant, ça peut être choquant. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, il y aura des détails un peu surprenants dans la lecture de certaines œuvres, notamment celle-ci.
Et elle
n'est
pas placée en évidence.
Cette-ci, si vous allez à l'église de San Salvador, qui est à Rialto, donc en plein centre de Venise, vous rentrez, c'est une église de San Sovino, hein. Vous rentrez et dans la dernière chapelle à droite, il y a cette pala. Pala, c'est retable. Hein, ce retable, là, à droite, il n'est pas éclairé. Contrairement à d'autres églises où ils éclairent les tableaux, vous savez, vous mettez une petite pièce, ou alors il y a... Hein, là, non, elle n'est pas éclairée, celle-là, jamais. Donc, il faut attendre toujours le rayon de soleil pour bien voir les détails, voilà. Et donc, tout le monde peut la voir, elle est vraiment la dernière chapelle à droite, puis après, il y a le tombeau de la reine Caterina Cornaro, et après, il y a une sacristie où il y a des très jolies fresques aussi qui restent. Bon. Et puis sur l'autel principal, il y a une autre grande peinture de Titien, c'est la résurrection du Christ, puisque l'église est intitulée à San Salvador, le Sauveur. Dans la même église, les portelles d'organo sont peintes par Francesco, qui était le frère de Titien. Francesco a régi sa bottega à Venise tant qu'il a pu, puis après il est retourné à Pieve di Cadore parce que les Vecellio avaient une entreprise familiale de bois, notamment, mais aussi d'autres choses. Hein. Ah, je vous ai dit en passant que Titien avait obtenu de la Sérénissime à condition qu'il peigne une énorme toile de la bataille de Cadore, la Senseria del Sale. La Senseria del Sale della Fontego dei Tedeschi. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, la Fontego dei Tedeschi, je vous ai dit, c'était la maison commerciale de la communauté allemande à partir du début du XVIe siècle. D'ailleurs, Titien avait peint en fresque la façade sur la calle e Giorgione sur le Grand Canal. Et i tedeschi, les Allemands, avaient négocié le sel vénitien dans toute l'Europe centrale. Et donc, les revenus de cette sincérie, disons, revenaient à la République, qu'ils pouvaient donner à qui ils voulaient, comme on donnait par exemple les bénéfices des abbayes pour l'Église. Et ça, c'était un apanage de Bellini. Alors, Titien l'avait demandé, mais on lui a dit non, tant que le vieux Bellini est vivant, on ne lui enlève pas à lui. Quand le vieux Bellini meurt, ça passe à Titien, mais à condition qu'il fasse cette grande toile. Il a mis 10 ans pour la faire. Alors on lui a enlevé la sincérie au moins 2 fois, après on lui a redonné, finalement il s'est décidé, il a fait la toile pour le Palais des Doges. Malheureusement aujourd'hui on ne peut plus la voir parce qu'elle a brûlé dans l'incendie du palais. Vous savez que le Palais des Doges a subi 3 grands incendies, en 1483, en 1574 et en 1577. Donc elle a brûlé, on ne l'a plus. De Titien d'ailleurs au Palais des Doges, il n'y a plus qu'une grande toile, qui est dans la salle, la première grande salle qu'on rentre, qui montre le doge Antonio Grimani à genoux devant la foi. Voilà. C'est une toile politique, disons-nous, et pas allégorique, mythologique. Et une fresque qu'on ne voit presque jamais, les visiteurs ne la voient pas. Cette fresque se trouve dans l'escalier, enfin, dans la contrefaçade de la montée d'escalier qui donnait dans la chambre du doge Andrea Gritti. Parce que le doge Andrea Gritti a été un grand doge protecteur des humanistes. Il a protégé Sansovino quand il est arrivé à Venise, qui avait fui le sac de Rome en 1527, donc il s'est réfugié à Venise comme d'autres artistes. Il a protégé donc Sansovino, il a protégé Titien, il a protégé la Rétine aussi. En fait, c'est aussi le doge qui a voulu la renovatio urbis, c'est-à-dire qu'il a modernisé la place Sama. C'est lui qui a voulu la bibliothèque faite par Sansovino, qui a voulu la procuratia, puis après on fera la tour de l'horloge par la suite, etc. Donc, c'est un doge qui a essayé de donner à cette aristocratie marchande un petit peu inculte, si on peut dire, le goût de la nouveauté qui venait de Rome avec Sansovino, de la nouvelle architecture, de la nouvelle mode, comme on dit. D'ailleurs, il y a un petit détail. Sansovino, quand il s'est mis à faire la bibliothèque marciana, il a construit comme il avait l'habitude de construire à Rome. Il a fait une belle voûte en pierre et tout ça s'écroule. Alors, à Venise, la République n'aimait pas du tout ça. Alors, il a été arrêté et mis en prison. Il est resté une semaine. Puis, grâce à son amitié avec Titien, qui avait des amis al Consiglio dei Dieci, ils ont fait pression pour qu'il soit libéré. Après, Sansovino a compris qu'à Venise, on ne peut pas construire comme à Rome. Il faut alléger le plus possible, parce que le sol est sablonneux et argileux. Nous sommes en zone sismique, en zone de brandisisme, et donc il faut alléger le tout. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est pour revenir aux doses grittées. Bon, j'arrête là, parce que si je commence, je vous fais une visite guidée de Venise.
Bien, mais merci Graziella. Et donc on se retrouve dans une quinzaine de jours autour de Jean-Paul Reynaud. Nous parlerons du voyage qui s'est déroulé au printemps dernier, Sud Toscane et Nord Ombrie. Voilà, merci. Bon retour, attention, ça peut glisser.